est susceptible de mettre fin au capitalisme en Europe. Donc il y a chez Roy un radical décentrement de l'origine de la révolution. Une dernière figure dont j'aimerais vous parler, c'est celle de C.R. James, qui est né à Trinidad et qui quitte son pays natal en... Voilà, c'est des figures de marxisme à pas oublier qui ont joué un rôle extrêmement important. Il quitte son pays natal en 1932 pour l'Angleterre. Et son séjour en Angleterre est marqué par ses prises de position contre l'agression de l'Abyssinie, maintenant l'Éthiopie, par l'Italie mussolinienne. Il se convertit ensuite au marxisme et il se rend également en France pour étudier les archives de la révolution haïtienne. Il rédige ce qui est devenu un classique, mais aussi, encore une fois, assez oublié, qui s'appelle « Les Jacobins noirs, Toussaint l'ouverture et la révolution de Saint-Domingue ». Or, ce que James montre dans ce texte, c'est déjà toute une histoire occultée des luttes des populations noires colonisées. C'est aussi, et principalement peut-être, l'autonomie de ces luttes, leur capacité à se développer en dehors de la tutelle des partis révolutionnaires « éclairés » entre guillemets européens. Bon, ensuite, James se rend aux États-Unis où il va vite devenir, au sein du mouvement trotskiste, le spécialiste de la question noire. Il va aussi être engagé dans le mouvement panafricain et s'intéresser de très près aux luttes de libération nationale. Il se rapproche de Nkrumah, le premier président ghanéen. Donc là, c'était seulement pour... je vais m'arrêter là à propos de ce que j'appelle les marxismes décoloniaux, même si c'est un sujet en soi. Et je vais passer tout de suite à l'anticolonialisme vraiment l'anticolonialisme francophone. Sur l'anticolonialisme, je vais vraiment me centrer là-dessus. Et je voudrais débuter en présentant un auteur dont on parle assez peu, encore une fois, beaucoup moins que Fanon, par exemple. Fanon a beau être un peu oublié, bon, il est quand même un peu... On en dit des choses. Et cet auteur, c'est le philosophe vietnamien Tran Duc Tao, qui a été auteur d'un livre à l'époque très connu en philosophie, qui s'appelait « Phénoménologie et matérialisme dialectique ». Tran Duc Tao est né en 1917 à Hanoï. Il est arrivé en France en 1939. Et il sera le premier étranger à être reçu à l'agrégation de philosophie. C'est un spécialiste reconnu de l'œuvre d'Edmond Husserl, qui s'investit, bon, ça on connaît moins cette partie, après la fin de la guerre, dans le soutien à la lutte de libération nationale indochinoise, ce qui lui vaut d'être emprisonné en 1945, pour quelques temps, et pour atteinte à la sûreté de l'État. Alors, pour la petite histoire, le problème est né lorsqu'un journaliste lui a demandé comment, après la guerre, le corps expéditionnaire français serait reçu par le peuple indochinois, à quoi Tran Duc Tao avait répondu « on les recevra à coups de fusil ». Donc c'était à partir de là que ça a mal tourné pour lui. Ce qui ne l'empêche pas, entre 1946 et 1947, de publier 3 articles dans les temps modernes, dans lequel il affirme en gros que les relations entre Français et Vietnamiens sont parvenues à un véritable point de rupture, et là il réutilise des concepts de la phénoménologie, mais peu importe, et que la situation coloniale a produit un véritable clivage entre les horizons d'existence des deux groupes, Vietnamiens et Français, un conflit auquel ne peut mettre fin aucun discours de réconciliation, car c'est un conflit qui se situe en deçà déjà de tout discours. Et ces thèses m'intéressent parce qu'elles sont la source de ce qui, chez Sartre et Fanon, dont je vais parler plus tard, s'appellera tout simplement le manichéisme colonial, la division de la société coloniale en deux groupes que tout oppose. Or, Tran Duc Tao affirme en outre que les Français s'avèrent incapables, je le cite, de se représenter nettement l'existence d'un peuple vietnamien conscient de lui-même, et c'est la fin qui est importante ici, conscient de lui-même. Incapables donc, les Français, de voir dans l'autre colonisé un véritable alter ego, c'est-à-dire un sujet à part entière. Or, cette volonté de placer au cœur de la réflexion la subjectivité du colonisé, ça encore, c'est à bien des égards une préfiguration des études postcoloniales. Mon dernier point à propos de Tran Duc Tao, il met en question l'impérialisme, ce qu'il appelle lui-même l'impérialisme des intellectuels français, qui, comme Claude Lefort, alors qui à l'époque critiquait le Viet Minh, les stratégies du Viet Minh, donc qui, comme Claude Lefort, prétendent appliquer les thèses marxistes, en l'occurrence la thèse trotskiste de la révolution permanente, sans faire l'effort de considérer les singularités historiques et politiques de la formation des classes au Vietnam. Bon, j'en dis pas plus sur Tron Ductao, excepté qu'il va quitter la France en 51 après une brouille avec Sartre. Il va rejoindre les troupes de Ho Chi Minh au Vietnam, où son destin va être du reste assez chaotique. Pour continuer sur la formation d'une posture postcoloniale au sein de l'anticolonialisme, je vais parler de la négritude. Alors, je ne veux pas parler du mouvement pour lui-même, mais seulement de certaines petites choses. En particulier, je vais parler d'Aimé Césaire, et je ne pense pas ici, habituellement on cite son texte anticolonial le plus célèbre, Le discours sur le colonialisme, qui a été publié en 50, mais je pense que aussi intéressant que ce texte, il y a la lettre à Maurice Thorez, qui est sa lettre de démission du Parti communiste français, qui a été rédigée en 56, au lendemain de la conférence de Bandung. Car dans cette lettre, Césaire s'adresse non seulement à l'Europe, pour condamner le colonialisme, ce qu'il faisait dans le discours sur le colonialisme, mais il parle désormais au nom des siens, ce qui n'était pas vraiment le cas avant. Il répète à plusieurs reprises « nous, hommes de couleur ». Donc là, il y a vraiment l'affirmation d'une position d'énonciation qu'il n'y avait pas dans le discours sur le colonialisme. Il affirme par exemple, je le cite, que les forces des peuples noirs ne peuvent que s'étioler dans des organisations qui ne leur sont pas propres, faites pour eux, faites par eux, et adaptées à des fins que seuls peuvent déterminer. Fin de citation. Les colonisés doivent désormais, ils disent, se représenter, agir par et pour eux-mêmes. Ils doivent non pas être élevés, fût-ce par un parti communiste français, mais s'élever, et je cite, par croissance interne, sans que rien d'extérieur vienne gaucher cette croissance. C'est donc cette revendication d'un droit à l'initiative, d'une autonomie et d'un pouvoir d'agir propre des peuples non européens qui signe vraiment chez Césaire la naissance d'une critique postcoloniale, plus que la critique du colonialisme en soi. Et là, on voit à nouveau le rôle qu'a pu jouer le marxisme comme lieu de fermentation de la critique postcoloniale, fût-ce ici dans une attitude de défi lancée à l'eurocentrisme du marxisme et en particulier du Parti communiste français. Et on aurait également pu prendre ici l'exemple de l'écrivain et fondateur du Parti communiste haïtien, Jacques Roumain, qui a aussi un parcours très, très spécial. Mais pour revenir à la négritude, je crois que c'est progressivement que va se développer une posture postcoloniale au sein de la négritude, et celle-ci devient manifeste lors du deuxième congrès des écrivains et artistes noirs de 1959 à Rome, donc au plein moment des luttes pour l'indépendance, et en particulier en Algérie. On témoigne par exemple l'allocution d'ouverture du fondateur de la revue Présence africaine, Alioune Diop, affirmant, je le cite, que la personnalité africaine aspire à être dégagée de l'emprise européenne. Diop met en question les doctrines occidentales, ce sont ses termes, les doctrines occidentales en tant qu'elles sont intimement liées, je cite, à l'expérience occidentale, à l'histoire occidentale, à la sensibilité occidentale, fin de citation, en tant qui plus est que ces doctrines sont prises dans la gangue des relations de pouvoir et soumises, il dit, aux impératifs de l'hégémonie occidentale. D'où l'urgente nécessité de ce qu'il nomme une décolonisation, une désoccidentalisation, et l'on pourrait dire aujourd'hui d'une décolonisation des savoirs. Le deuxième exemple, qui est aussi tiré de cette conférence, c'est celui de la communication de l'écrivain malgache, écrivain et homme politique malgache, Jacques Rabé Mananjara, selon lequel la menace qui pèse sur les peuples en voie de décolonisation est de se laisser, je le cite encore, contaminer par les catégories de pensée et la plastique intellectuelle de l'homme européen. C'est que pour lui, la colonisation, il demande déjà, n'est pas seulement un fait politique, c'est aussi un phénomène psychique, d'où la nécessité, alors c'est pas encore ces mots, mais c'est ce qui viendra après, d'une décolonisation des esprits. Mais pour Rabé Mananjara, cette décolonisation ne doit pas simplement, la désoccidentalisation, ne doit pas simplement être un, il dit, un combat contre l'Occident en tant qu'Occident. Ça ne m'intéresse pas. Ça doit être un combat contre un certain esprit de l'Occident, qui est l'esprit de l'oppression. La stratégie, c'est donc pas de rejeter tout ce qui peut venir de l'Occident, ou c'est l'Europe, j'utilise Occident parce que c'est tous les termes qui viennent à ce moment-là. Mais c'est pas de rejeter tous les dons, un mot qui revient aussi souvent, les dons de l'Occident. La stratégie, c'est de jouer l'Occident contre lui-même pour déjouer le mal, je cite, que l'Occident nous a appris lui-même à diagnostiquer, en faisant par exemple de la langue française une arme de combat contre la domination française, car la langue française est ce qui permet aussi, d'unifier les différents pays africains. C'est là ce que Rabbe Manon Djara appelle un effet boomerang, alors une notion qu'on va retrouver très souvent après, jusque dans des chansons des Rage Against the Machine. Et c'est ce que j'appelle quant à moi un retournement des armes du colonisateur contre le colonisateur, contre ce dernier, stratégie qui est bien un des piliers de la critique postcoloniale, cette activité de retournement. Alors à cet égard, on ne peut pas passer sous silence le rôle qu'a pu jouer la pensée de Jean-Paul Sartre, et tout particulièrement son essai Orphée noir, qui est une introduction à l'anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache, qui est dirigée par Léopold Sédar Senghor en 1947. C'est que selon Sartre, le fait que les poètes de la négritude s'expriment en français n'est que conformité, je cite, à cette loi des reins qui refuse à l'opprimé toutes les armes qu'il n'aura pas volées lui-même à l'oppresseur. Car les opprimés, il y a encore, n'ont pas d'autre choix que d'avoir recours aux mots de l'oppresseur, c'est-à-dire qu'ils doivent détruire de l'intérieur le langage du colonisateur. Et j'anticipe un peu sur mon propos en disant qu'Edward Said, dont une figure clé des études postcoloniales, dira presque un demi-siècle plus tard, enfin défendra, des positions presque similaires, puisqu'il dira, je le cite, « C'est en partie la tragédie de la résistance. Elle doit, dans une certaine mesure, travailler à récupérer des formes déjà établies ou du moins influencées ou infiltrées par la culture de l'Empire. » Fin de citation. Alors, si la contribution de Sartre à la critique anticoloniale est indéniable et en général reconnue, l'on oublie trop souvent un autre philosophe qui, certes, a pu avoir des positions assez ambiguës sur les décolonisations, bon, en particulier Madagascar, mais qui néanmoins inaugure un véritable tournant que l'on peut bien dire postcolonial, et ce philosophe, c'est Maurice Merleau-Ponty. Dans un essai qui est intitulé « De Mauss à Claude Lévi-Strauss », Merleau-Ponty en appelle à un renouveau du concept d'universel, à ce qu'il nomme l'universel de surplomb, ou ce qu'on pourrait appeler l'universel impérial. Il faut, dit-il, substituer, je le cite, « un universel latéral, incessante mise à l'épreuve de soi par l'autre et de l'autre par soi ». Donc l'universel latéral contre l'universel de surplomb. Comme le dit très bien le philosophe Souleymane Bachirdian qui travaille sur ces textes, cet universel latéral est un universel de traduction. Il ne faut donc plus penser, selon Merleau-Ponty, un universel abstrait dont finalement toutes les incarnations ne seraient somme toute que des dégradations, mais au contraire un universel qui n'est jamais donné d'avance, et qui ne se construit et ne peut se construire que dans une activité de traduction d'une langue à une autre ou d'une culture à une autre. C'est là ce que je considère être une position perspectiviste et non pas relativiste, une position perspectiviste selon laquelle l'universel ou le commun, pourrait-on dire, n'est rien d'autre que l'intersection. Alors, l'intersection qui est peut-être complètement idéal, enfin, ou idéaliste, de l'infinité des points de vue singuliers. L'universel, c'est ce que Merleau-Ponty appellera plus tard un intermonde, c'est-à-dire à la croisée des différents mondes, là où les mondes se rejoignent. Et je crois que la formule suivante, quoique chez Merleau-Ponty, elle définisse toute altérité, enfin, Merleau-Ponty ne parle pas de rien de postcolonial ici, elle définit vraiment la relation d'altérité, mais je pense quand même qu'elle résume à merveille le programme de la critique postcoloniale ou ce que vise la critique postcoloniale. Je le cite, « Pour qu'autrui soit vraiment autrui, il faut, il suffit qu'il ait le pouvoir de me décentrer, d'opposer sa centration à la mienne. » Fin de citation. Donc j'en viens à présent au dernier moment de cette première partie sur l'anticolonialisme. C'est le moment des luttes de libération nationale. Il y aurait énormément à dire, il y a beaucoup de figures intellectuelles et politiques à citer. Alors ça va de Gandhi en Inde à Amilcar Cabral en Guinée, au Cap-Vert, en passant par Nkrumah et Lumumba, enfin que des figures extrêmement importantes, et bien d'autres encore. Mais je voudrais m'attarder un peu plus longuement sur le psychiatre martiniquais et algérien et théoricien des décolonisations, Frantz Fanon. Et on en vient à la lecture d'un extrait des Damnés de la Terre, le dernier livre de Fanon.
Allons, camarades, il vaut mieux décider dès maintenant de changer de bord. La grande nuit dans laquelle nous fûmes plongés, il nous faut la secouer et en sortir. Quittons cette Europe qui n'en finit pas de parler de l'homme tout en le massacrant partout où elle le rencontre, à tous les coins de ses propres rues, à tous les coins du monde. Allons, camarades, le jeu européen est définitivement terminé. Il faut trouver autre chose. Nous pouvons tout faire aujourd'hui, à condition de ne pas singer l'Europe, à condition de ne pas être obsédé par le désir de rattraper l'Europe. Les réalisations européennes, la technique européenne, le style européen doivent cesser de nous tenter et de nous déséquilibrer. Tous les éléments d'une solution aux grands problèmes de l'humanité ont, à des moments différents, existé dans la pensée de l'Europe. Mais l'action des hommes européens n'a pas réalisé la mission qui lui revenait. Il s'agit pour le tiers-monde de recommencer une histoire de l'homme qui tienne compte à la fois des thèses quelquefois prodigieuses soutenues par l'Europe, mais aussi des crimes de l'Europe. Donc, camarades, ne payons pas de tribut à l'Europe en créant des États, des institutions et des sociétés qui s'en inspirent. L'humanité attend autre chose de nous que cette imitation caricaturale et dans l'ensemble obscène. Pour l'Europe, pour nous-mêmes et pour l'humanité, camarades, il faut faire peau neuve, développer une pensée neuve, tenter de mettre sur pied un homme neuf.
Donc là, bon, ce qu'on voit très bien dans ce passage, c'est la volonté, alors, qui s'exprime dans tout le livre, dans tous les Damnés de la Terre, mais spécialement dans la conclusion, le désir d'une rupture radicale avec l'Europe. Mais ça, c'est ce que, bon, il n'y a pas besoin d'expliquer, ça ressort extrêmement bien du texte. Il y a seulement des éléments qui permettent de repenser un peu ça et de comprendre un peu la complexité de la pensée de Fanon. C'est qu'il dit en même temps que ce désir de rupture, c'est à la fois une forme de recommencement, mais d'un recommencement autrement. C'est-à-dire qu'on ne va pas rompre entièrement. Enfin, il y a une rupture intégrale qui s'accommode en même temps d'une possible reprise et quasi, qui a quelque chose de quasi paradoxal. Mais pour bien le comprendre, enfin pour le, on peut se reporter à l'ouvrage de 1959 de Fanon, l'enceinte de la révolution algérienne, qui du début à sa fin va exposer ce que j'ai appelé avant un retournement des armes du colonisateur, qui n'a pas disparu des Damnés de la Terre, je crois. Fanon montre dans ce livre comment le colonisé engagé dans la lutte de libération nationale s'approprie, mais pour les détourner, les armes de l'occupant, ses techniques, ses valeurs, le mot est de lui, ou encore ses idées. Fanon prend ainsi l'exemple, alors tous les chapitres sont bâtis de cette manière-là, de la médecine, de la radio, ou encore du français. Il écrit par exemple à propos du français, la langue française devient aussi un instrument de libération. Et je crois que si Fanon est aujourd'hui considéré comme un, voire le précurseur de la critique postcoloniale, c'est non seulement parce qu'il a été l'un des premiers à penser les effets subjectifs du colonialisme sur ses victimes, c'est-à-dire de prendre le point de vue du colonisé, mais aussi parce qu'il ne se contente pas de problématiser ou de thématiser le retournement des armes du colonisateur, mais que lui-même, dans sa propre pratique d'écriture et dans sa propre pratique théorique, opère ce retournement. Alors, je m'explique, j'ai la conviction que l'on peut comprendre vraiment Fanon qu'à condition de toujours avoir à l'esprit ce qui est un geste, on peut dire méthodologique si on veut, fondamental, qui consiste à s'approprier pour lui des théories qui sont nées en Europe. De toute façon, il n'a pas d'autres références, il ne va pas faire appel à quelque chose d'autre. Il s'approprie ces théories nées en Europe, alors la psychanalyse, la psychiatrie, l'existentialisme, l'hegelianisme, peu importe, mais il se les approprie pour les relocaliser dans les colonies et pour les retourner contre la domination coloniale européenne. Or, pour les retourner, il faut aussi qu'il les transforme, il faut aussi qu'il les traduise d'une autre manière, qu'il les reformule, il faut aussi qu'il découvre les limites de ses savoirs, en quoi tout ce qu'il utilise est d'une certaine manière inadéquat parce qu'il n'y a pas de, parce que c'est... Voilà, mon sang et ses pensées sont restés aveugles, d'une certaine manière, au monde non européen et aux effets de l'Europe sur le monde non européen. Donc il faut produire, bon, c'est ce que j'ai appelé des déplacements géo-épistémiques et des déplacements des savoirs qui sont en même temps des déplacements géographiques. Si la pratique théorique de Fanon est fondamentalement postcoloniale, c'est au sens pour moi où c'est ni une imitation ou une pure reprise, mais non, ni non plus une négation des pensées européennes, mais qu'elle procède, la pensée de Fanon, d'un double mouvement qui est d'appropriation, à la fois d'appropriation et de rupture, à la fois de reprise et de déprise, et c'est une opération complexe qui ne peut qu'échapper à l'opposition du parti très simple du particularisme contre l'universalisme. Pour le dire encore autrement, Fanon produit une libération de la pensée européenne dans un double sens, au double sens des génitifs subjectifs et objectifs. C'est à la fois une libération du colonisé à l'égard de cette pensée européenne, mais aussi une pensée libérée de son inscription dans les logiques coloniales. Donc j'arrête là tout de suite avec l'anticolonialisme. Je passe à la seconde partie de la présentation qui porte sur la critique postcoloniale à proprement parler. Or, si on veut penser à la critique postcoloniale, il faut voir qu'elle se divise en trois mouvements majeurs qui renvoient à des espaces géographiques distincts et qui partagent néanmoins de fortes connexions. Ces trois mouvements, c'est les subaltern studies indiennes, les postcolonial studies anglo-américaines et la théorie des coloniales plus récente, latino-américaine. Alors je commence avec les subaltern studies dont le nom est inspiré de l'œuvre d'Antonio Gramsci et de son concept de subalterne et qui émane d'un groupe de recherche qui est né à Calcutta dans les années 80. Donc qui en, dans le, d'une certaine manière, on peut y voir encore un lien très lointain à la Renaissance Magali. L'origine de ce mouvement, c'est la critique de l'historiographie postcoloniale indienne, jugée comme une historiographie purement nationaliste et qui s'inscrit dans la droite ligne de l'historiographie coloniale et qui gomme, enfin, qui se centre sur les élites et qui gomme totalement le rôle joué par les masses paysannes indiennes dans la résistance occupée, opposée à l'occupant anglais. Il s'agit par conséquent pour les théoriciens des subaltern studies d'opposer à cette histoire, on va dire par le haut, une histoire par le bas, avec cette volonté de démontrer que les subalternes ne sont pas seulement les objets du destin, capables au mieux de quelques flambées de violence spontanées, irrationnelles et quasi naturelles, mais des sujets de l'histoire doués de conscience. Alors, il y a une autre figure clé des subaltern studies, que je connais moins bien, je dois avouer, qui s'appelle Partha Chatterjee, qui a été auteur, entre autres, en 2004, donc assez récemment, d'un livre qui s'appelle « Politique des gouvernés, réflexion sur la politique populaire dans la majeure partie du monde ». La majeure partie du monde, c'est important, on va voir pourquoi, parce que ce que montre Chatterjee, c'est que certains des grands concepts de la pensée politique qui ont été développés dans ce qu'on pourrait appeler, du coup, en contrepoint, la mineure partie du monde, c'est-à-dire l'Europe et les États-Unis, des concepts qu'on a tendance à concevoir comme universels et comme pouvant s'appliquer en tout lieu, sont de fait assez inadéquats, enfin pas suffisants, pour penser la politique dans la majeure partie du monde. Et Chatterjee prend l'exemple du concept de société civile, dans la mesure où en Inde, dit-il, la majorité de la population est exclue de la société civile et se situe en deçà de la société civile dans un domaine qui est finalement infrapolitique. C'est pourquoi, selon lui, un effort de déplacement et de traduction conceptuelle s'avère indispensable dès qu'on veut reprendre la pensée politique dans cette partie du monde, en l'occurrence en Inde. Alors, je voudrais aussi vous parler d'un livre que je considère comme le livre fondamental des subaltern studies, et c'est le Provincialiser l'Europe, le livre Provincialiser l'Europe de Dipesh Chakrabarty. Alors ceux qui ne vont guère au-delà du titre, et ils sont assez nombreux en France d'ailleurs, imaginent que Chakrabarty dit en substance que l'Europe n'est d'ores et déjà qu'une province du monde parmi les autres, et que les savoirs européens, les savoirs nés en Europe, ne sont en somme que des savoirs indigènes de l'Europe, et qu'en ce sens, ils ne peuvent valoir au-delà de l'Europe, ils n'ont aucune validité autre. Or, pour résumer, Chakrabarti ne ferait rien d'autre, selon ses interprètes, que défendre un relativisme qui serait, il est vrai, très peu original. Mais c'est là une erreur flagrante d'interprétation, car Chakrabarti dit lui-même que le projet de provincialisation n'est en rien, je le cite, une défense du relativisme culturel, n'est en rien un projet nationaliste, indigéniste ou atavique, fin de citation. Il n'hésite pas non plus à affirmer que sans l'aide des concepts de la pensée politique européenne, je cite, il est tout simplement impossible de comprendre la modernité politique, y compris dans les pays non européens. Or, la clé même du projet de provincialisation réside selon moi dans cette phrase de Chakrabarti, je le cite, « Si provincialiser l'Europe s'ouvre et s'achève sur la reconnaissance du fait que la pensée politique européenne est indispensable pour représenter la modernité politique non européenne, il affronte les problèmes de représentation qui résultent nécessairement de cette indispensabilité. » Or, ce que dit donc Chakrabarti, c'est que la pensée européenne, elle est à la fois indispensable, mais aussi inadéquate. Tout l'effort consistant dès lors, et là ça rappelle ce que j'ai dit avant, non pas à rejeter cette pensée, d'ailleurs Chakrabarti s'appuie en permanence sur Marx et Heidegger, donc non pas rejeter cette pensée, mais à se l'approprier tout en la déplaçant, à le relocaliser hors d'Europe, et par conséquent à la transformer. Et on ne s'étonnera pas de ce point de vue que Chakrabarti accorde lui aussi un rôle essentiel au processus de traduction. Ce geste de déprise et de reprise, Chakrabarti affirme dans la dernière phrase du livre, donc de provincialiser l'Europe, qu'il relève d'un esprit, ce qu'il appelle un esprit de gratitude anticoloniale. Bon, c'est une formule que j'affectionne beaucoup et que l'auteur explicite en citant ces paroles du philosophe indien Jaravalan Mehta, sur lequel j'ai un peu travaillé aussi, mais je cite Mehta, qui dit « Il n'y a pas d'autre chemin qui nous soit accessible à nous orientaux, à nous à l'Est. Nous devons poursuivre dans la voie de cette européanisation jusqu'au bout. Ce n'est qu'au cours de ce voyage à travers l'étranger et l'étrange que nous pouvons regagner notre propre individualité. Ici comme ailleurs, le chemin vers ce qui est le plus proche de nous est le chemin de retour le plus long. » Bon, en fait, là, ici, Mehta, qui est un grand interprète de Heidegger, transforme beaucoup de choses, mais de Heidegger, que je ne vais pas reprendre. L'important, ici, c'est que Mehta dit, en somme, qu'en situation postcoloniale, il n'y a pas de retour à soi, et le retour à soi reste une question primordiale, mais, il n'y a de retour à soi que par un détour par l'autre, en l'occurrence, par l'Europe. Je vais également citer, je passe tout de suite à quelqu'un d'autre, un chercheur qui est en marge des subaltern studies, mais qui n'en partage pas moins avec elle des préoccupations communes. Il s'agit d'Achis Nandi, qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle « L'ennemi intime », qui a aussi été traduit « L'ennemi intime, perte de soi et retour à soi sous le colonialisme ». Alors Nandi affirme, comme Fanon, que la colonisation et non pas seulement une colonisation des corps, mais aussi une colonisation des esprits. Or, il ajoute qu'on ne peut pas se défaire de cette colonisation des esprits seulement par simple désir ou par simple décret. Il est impossible pour l'ex-colonisé, et pour Nandi lui-même, il l'avoue, de se situer en dehors de l'héritage de la pensée européenne. C'est pourquoi la tâche de décolonisation ne peut être qu'une tâche de subversion. Et il prend l'exemple, un exemple important, enfin, très bien développé, qui est celui de l'androgynie revendiquée par Gandhi, dans laquelle l'androgynie de Gandhi n'était pas seulement pour lui un simple retour à la tradition indienne, enfin, voilà, mais tout autant, et sinon plus, un instrument de contestation intérieure de l'ordre sexuel colonial britannique fondé sur la féminisation du colonisé. Donc c'était finalement jouer de cette féminisation contre le colonisateur, plutôt que d'aller, comme Nandi dit, comme certains mouvements indépendantistes indiens, qui étaient fondés sur une affirmation de virilité. Mais avant de clore cette introduction au Subaltern Studies, je vais juste mentionner le nom de Gayatri Chakrabarti Spivak, qui est très importante et qui est auteur d'un très célèbre, mais aussi très extrêmement difficile essai qui s'appelle « Les subalternes peuvent-elles parler ?» donc, que je ne vais pas développer, je vais dire que j'ai assez de difficultés moi aussi avec ce texte, qui questionne en tout cas le projet même des subaltern studies auquel elle a participé. Elle le questionne dans sa prétention à représenter et à donner voix aux sans-voix, aux subalternes. À présent, la prétention des membres des subaltern studies à parler au nom des véritables subalternes. Mais c'est surtout qu'avec Spivak, que je voulais en parler, car elle est professeure à Columbia University, comme Chakrabarty est professeur à Chicago, on est vraiment à la frontière qui est très poreuse des subaltern studies et des postcolonial studies. Or, ces dernières, dont la maturation aux États-Unis est indissociable de celle du post-structuralisme ou de la French theory d'un côté et des gender studies de l'autre, les postcolonial studies émergent elles aussi au tournant des années 80, leur acte de naissance pouvant être daté de la publication en 1978 de l'ouvrage séminal de l'intellectuel américain et palestinien Edward Said, cet ouvrage qui s'appelle « L'orientalisme », qui, contrairement à beaucoup de textes postcoloniaux, a été traduit très vite. Saïd, y affirme que l'Orient n'est rien d'autre qu'une invention ou une création de l'Occident, que l'Orient a été tissé à travers toute une série de discours, et en particulier de discours scientifiques, le discours des orientalistes, des discours profondément entremêlés aux rapports de pouvoir et intimement liés à l'entreprise coloniale, mais on va lire un passage.
L'homme de science, l'érudit, le missionnaire, le commerçant, le soldat étaient en Orient ou réfléchissaient sur l'Orient parce qu'ils pouvaient y réfléchir, sans guère rencontrer de résistance de la part de l'Orient. Sous l'entête générale de la connaissance de l'Orient, et sous le parapluie de l'hégémonie occidentale, à partir de la fin du XVIIIe siècle, a émergé un Orient complexe, bien adapté aux études académiques, aux expositions dans les musées, à la reconstruction par les bureaux coloniaux, à l'illustration théorique de thèses anthropologiques, biologiques, linguistiques, raciales et historiques sur l'humanité et l'univers, par exemple des théories économiques et sociologiques sur le développement, la révolution, la personnalité culturelle, le caractère national ou religieux. De surcroît, la prise en compte par l'imagination des choses de l'Orient était plus ou moins exclusivement fondée sur une conscience occidentale souveraine. De sa position centrale indiscutée émergeait un monde oriental, conforme d'abord aux idées générales de ce qu'était un oriental, puis à une logique détaillée, gouvernée non seulement par la réalité empirique, mais par toute une batterie de désirs, de répressions, d'investissements et de projections.
Donc je ne vais pas en dire plus sur l'orientalisme, parce que je voudrais aussi parler d'un autre, livre de Saïd, qui est pour moi tout aussi essentiel, c'est « Culture et impérialisme » qui date de 1993. Ce qui illustre en somme Saïd dans ce livre, c'est que toute critique du colonialisme n'est pas une critique postcoloniale. Enfin, il y a d'autres choses, hein, bien sûr, mais c'est ce qui m'intéresse ici. Cette critique n'est pas postcoloniale, par exemple, si elle reste grévée par un paternalisme qui dirait, en somme, que la libération du colonisé est certes nécessaire, mais qu'elle ne peut que lui être octroyée par le colonisateur et non conquise par ses propres forces. Pour Saïd, il n'y a de critique postcoloniale qu'à partir du moment où l'on reconnaît le pouvoir qu'ont les colonisés eux-mêmes de s'opposer et de résister au colonialisme. Qu'à partir du moment où on reconnaît qu'il y a deux côtés, c'est le titre d'un sous-chapitre du livre, et non le seul sujet colonisateur, et peu importe ici qu'on le considère comme un bienfaiteur ou comme un tyran, le seul sujet colonisateur face à l'objet colonisé privé de toute voix et de tout pouvoir d'agir. Saïd nous rappelle ainsi, je le cite, qu'il existe tout un mouvement, une littérature et une théorie de la résistance et de la riposte à l'empire. Fin de citation. Je m'arrête là avec Saïd pour parler brièvement d'un autre auteur, qui lui est issu des Cultural Studies britanniques, et qui est Paul Gilroy. Alors, dans son livre « L'Atlantique noir, modernité et double conscience », Gilroy conçoit l'Atlantique comme lieu de construction d'une modernité alternative qui a été inaugurée par la traite négrière, mais qui s'étend bien au-delà d'elle, comme en témoignent les voyages des intellectuels noirs, et il prend spécialement comme exemple William Du Bois et Richard Wright, leur voyage entre l'Ancien et le Nouveau Monde. Alors, ce qui intéresse Gilroy dans l'Atlantique, c'est justement que ce n'est pas un territoire fixe qui aurait des frontières bien délimitées et où pourrait s'affirmer une et une seule invariable identité noire. C'est avant tout un espace transnational de transit et de circulation où l'identité ne fait se reconstruire sans cesse. C'est l'espace d'une diaspora qui est marquée par la double conscience, c'est-à-dire par un effort permanent pour être à la fois noir d'un côté et européen ou américain de l'autre. Or, cette idée de la double conscience permet de passer à autre chose, c'est-à-dire un geste qui est vraiment emblématique de la critique postcoloniale, qui ne doit pas être résumé à ça, mais ça reste extrêmement important, c'est la critique des binarismes coloniaux. En effet, les théoriciens postcoloniaux se sont attachés à montrer que le discours colonial était fondé sur une série de couples binaires, des termes opposés entre lesquels tout mélange ou tout métissage, on pourrait dire, était interdit. Des couples comme blanc-noir, civilisé primitif, évolué sauvage, rationnel, irrationnel, etc. D'où la nécessité d'une déconstruction du discours colonial. Alors il faut à cet égard citer le nom de Homi Bhabha, dont la thèse est que le discours colonial, loin de reposer sur une inébranlable logique, serait profondément ambivalent. Ainsi, il prend des exemples, lorsque le colonisateur dit que le noir est à la fois sauvage et docile, innocent comme l'enfant et espiègle le voleur, il fait de toute évidence tenir ensemble des qualités, ou inversement des défauts, mais peu importe, des qualités contradictoires. Ce qui est, selon Bhabha, cette contradiction, le propre du stéréotype. Or, cette ambivalence, elle mine, selon lui, de l'intérieur le discours colonial, de telle manière que déconstruire ce discours, c'est d'une certaine manière l'amener à sa propre autodestruction. C'est révéler cette ambivalence. Mais je m'arrête là, et pour finir sur la critique postcoloniale, je voudrais faire référence à un chercheur qui, selon moi, a parfaitement résumé ce que sont les études postcoloniales. Il s'agit de Robert Young, qui a écrit un livre qui s'appelle « Postcolonialisme ». Une introduction historique, bon, j'ai traduit le titre en français, car le livre n'est pas encore traduit, il ne sera peut-être pas, parce que c'est énorme, mais dont je recommande très vivement la lecture. Or, pour Jung, qui reprend les mots de Derrida, le discours postcolonial est, je cite, « un discours qui emprunte par héritage les ressources nécessaires pour la déconstruction de l'héritage lui-même ». Fin de citation. Ce qui est une autre manière de définir ce que j'ai appelé le retournement des armes du colonisateur. Jung dit par ailleurs que le postcolonialisme, je cite, combine les innovations épistémologiques et culturelles du moment postcolonial avec une critique des conditions de la postcolonialité. Ce qui signifie que la critique postcoloniale est indissociablement une critique politique d'un côté et une critique épistémique de l'autre, une critique des savoirs. Il s'agit donc d'une part d'interroger la situation postcoloniale, qui est aussi notre situation en France dans la mesure où la situation postcoloniale affecte autant les ex-métropoles que les ex-colonies. Donc il s'agit à la fois de faire ça, d'analyser la persistance et la reproduction de rapports coloniaux au sein des sociétés postcoloniales, mais il s'agit aussi, et d'autre part, de se doter de nouveaux outils intellectuels, de nouvelles armes critiques, en s'efforçant de décentrer la pensée européenne et de lutter contre ce qu'on peut désigner contre ce que l'on peut désigner comme un racisme épistémique qui reste assez vivace, racisme épistémique qui continue à dénier à l'ex-colonisé la capacité d'être sujet de connaissance. Et là, le fait qu'on le reconnaisse comme la valeur de sa culture ou d'autres choses, de ses traditions, ne change rien à ça. On peut toujours lui dénier sa capacité en tant que sujet de connaissance. Alors, dernier moment de la critique postcoloniale, la théorie des coloniales latino-américaines, qui est quelque chose de encore moins connu. Cette dernière se cristallise à la fin des années 90 et en rupture avec les postcolonial studies. Selon Walter Mignolo, qui est argentin, la pensée décoloniale se distingue des études postcoloniales de trois manières. Car premièrement, tandis que les études postcoloniales se donnent pour cadre le colonialisme, c'est-à-dire finalement une réalité historique qui reste limitée, la pensée décoloniale a elle pour cadre ce qu'ils appellent la colonialité, qui serait la condition globale de la modernité. Or, cette notion a été forgée par le sociologue péruvien Aníbal Quijano, qui est aussi un spécialiste de Mariátegui, dont je parlais au départ. Et Quijano parle plus exactement de colonialité du pouvoir, et d'un pouvoir qui émerge avec la conquête de l'Amérique, et qui perdure jusqu'aujourd'hui. La colonialité du pouvoir, elle prend trois formes. C'est d'abord un système hiérarchique, un système de supériorité et d'infériorité, fondée sur la différence raciale et la classification biologique des peuples, et qui s'exprime non seulement symboliquement, mais aussi très concrètement, économiquement, sous la forme d'une division raciale du travail. C'est aussi ensuite un système de connaissances intrinsèquement eurocentrique qui sert à légitimer et à naturaliser la domination coloniale et qui exclut, voire détruit, les savoirs indigènes. C'est enfin un système culturel qui rejette irrémédiablement les sociétés colonisées en dehors de la modernité, une modernité qui est résumée en trois points: pouvoir étatique, économie capitaliste et rationalité scientifique. Alors la deuxième différence soulignée par Mignolo entre pensée décoloniale et études postcoloniales, c'est que tandis que les secondes se réfèrent exclusivement à la colonisation de l'Asie et de l'Afrique entre le XVIIIe et le XXe siècle, la première remonte beaucoup plus loin, bon, j'ai déjà plus ou moins dit, elle remonte jusqu'à la colonisation de l'Amérique à partir du XVIe siècle. La dernière différence, et elle est de taille, c'est que les théoriciens décoloniaux reprochent aux études postcoloniales leur généalogie intellectuelle et leur enracinement et leur dépendance vis-à-vis de la French theory, c'est-à-dire de la pensée américanisée de Foucault, Derrida ou Deleuze ou Lyotard. C'est-à-dire le fait, il leur reproche de s'enraciner dans la pensée européenne. Or, la théorie décoloniale prétend quant à elle prendre appui sur la longue histoire et surtout la vaste géographie de la pensée décoloniale dans le monde non européen, de Gandhi à Fanon, en passant par Cabral ou Césaire. Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que je crois que ce procès intenté aux études postcoloniales est pour une part injuste, car ces références sont aussi celles des études postcoloniales, mais je passe là-dessus. Et je vais plutôt évoquer l'un des inspirateurs essentiels de la pensée décoloniale, qui est le philosophe argentin et mexicain Enrique Dussel, qui est le chantre d'une philosophie de la libération, et qui en appelle à explorer ce qu'il appelle la face cachée de la modernité, un impensé que le grand discours de la modernité présuppose et dissimule à la fois, l'expérience coloniale étant à cet égard paradigmatique, elle fait bien sûr partie de cet impensé. En résumé, le mot d'ordre de la pensée décoloniale, pour reprendre des expressions qui viennent souvent chez ces auteurs, c'est de transformer la géographie de la raison en nous rappelant que l'Europe n'est pas la source unique d'où jaillit toute pensée. La pensée décoloniale nous invite donc à repenser ce qui est encore une autre expression, la géopolitique de la connaissance, à analyser, alors pour pasticher Foucault, les relations entre rapports internationaux de pouvoir d'un côté, conflits géopolitiques d'un côté, et production et circulation des savoirs de l'autre. Enfin, la pensée décoloniale est aussi une pensée militante. Par exemple, Mignolo est proche du mouvement zapatiste mexicain. Les théoriciens décoloniaux organisent chaque année une école d'été décoloniale qui réunit chercheurs et activistes. Ça se passe souvent en Europe. Et enfin, des liens forts ont été établis avec des mouvements et organisations à l'échelle internationale. Par exemple, en France, avec le Parti des indigènes de la République, dont je vais parler tout à l'heure. Et avant de clore cette deuxième partie, je vais faire référence à une importante contribution francophone à la critique postcoloniale qui est très difficile à situer. C'est celle de l'historien camerounais Achille Mbembe, qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle « De la postcolonie », essai sur l'imaginaire politique dans l'Afrique contemporaine, publié en 2000 chez Cartalage. Or, il est pour le moins significatif qu'il ait fallu attendre la traduction anglaise et le succès américain, pour ainsi dire, de ce livre, pour que celui-ci, passé relativement inaperçu en France lors de sa publication, acquiert finalement une certaine renommée. Ce qui n'est pas sans rappeler aussi le destin des écrits de Fanon qui font retour en France via les États-Unis. Donc ce détour par les États-Unis est assez caractéristique et m'amène à ma dernière partie qui porte sur l'introduction de la critique postcoloniale en France. Parler de cette introduction, qui est donc d'une certaine manière aussi souvent un retour, c'est inévitablement débuté par les très fortes résistances qui lui ont été opposées et qui ne sont pas sans relation avec le malaise éprouvé par la France à l'égard de son passé colonial. Ces résistances, ça me paraît important de le rappeler, se font déjà sentir au lendemain même des indépendances. Et on peut prendre pour seul exemple les arguments que Jean-Marie Domenach, qui était pourtant loin d'être un nostalgique du colonialisme, oppose dès 1962 dans la revue Esprit aux damnés de la terre de Fanon. Ce qui dérange Domenach chez Fanon, c'est ce qu'il perçoit comme, je le cite, une révolte contre l'Europe, ses techniques et son humanisme. Une révolte qui n'est du reste, dit-il, qu'une révolte contre l'universel. Il soulève cette question qui préfigure l'inquiétude éprouvée aujourd'hui à l'égard du postcolonial, puisqu'il dit « Peut-on concevoir dans ce monde une révolution, une émancipation qui ne soit pas d'une façon ou d'une autre liée à quelques noyaux européens ?» Car pour Domenach, je cite encore, « C'est encore l'Europe qui donne le modèle et le ton. » Et il ajoute, et il faut bien écouter ce qu'il dit, l'alliance conclut le meilleur de l'intelligence européenne avec les pauvres et les opprimés. Voilà ce qui continue à féconder le monde entier. Et on voit bien que chez Domenach, finalement, l'intelligence demeure encore l'apanage d'un des deux seuls protagonistes, l'Europe, et l'autre n'a guère plus à offrir que sa misère. Or, c'est précisément une telle supériorité épistémique, ou une supériorité intellectuelle, que conteste la critique postcoloniale, et que contestait déjà Fanon, qui ne cesse d'affirmer que les subalternes ne sont pas seulement des objets de commisération, mais aussi des sujets de parole et de pensée. Ce qui n'est pas, selon moi, une position moins universaliste que l'autre. Bon, en tout cas, ces résistances, que j'appelle ces résistances épistémiques, elles se retrouvent chez des critiques contemporains du postcolonialisme, en France. Ainsi de l'anthropologue Jean-Loup Amsel, dans son ouvrage « L'Occident décroché, enquête sur les postcolonialismes ». Car Amsel perçoit dans la critique postcoloniale l'affirmation d'un nouveau relativisme, d'un ethnicisme. Et va s'il ne s'agissait là que de quelques intellectuels qui évolueraient dans leur cocon, mais la critique postcoloniale est selon lui douée de performativité, c'est-à-dire qu'elle est censée, selon lui, elle produit des effets et contribue très directement aux divisions sociales et au durcissement des identités dans la société française. Bon, l'argument est bien connu et d'autres en ont fait les frais. C'est que, pour lui et pour d'autres, affirmer que la notion de race a une valeur analytique en tant que catégorie sociale s'entend, c'est de son point de vue créer de la race. Enfin, c'est ce qui est opposé parfois à des gens comme Éric Fassin également. Condire, c'est faire, d'une certaine manière. Mais ce que Amsel et d'autres ne semblent a priori pas comprendre, c'est que la critique postcoloniale vise tout au contraire à dire pour subvertir, ou à dire pour déconstruire. Son leitmotiv serait bien plutôt qu'en dire c'est défaire. Et ce que rétorquait il y a quelques mois la philosophe Céloaluste Boulbina à Pierre Nora sur le site de... Je ne sais plus où c'était. En tout cas, ça aurait pu tout aussi bien être adressé à Amsel. Boulbina disait « Faites comme si la critique d'une conception de l'universel se réduisait à la contestation de l'idée même d'universalité. » Fin de citation. Et le philosophe François Varin a à cet égard des positions très proches de celles d'Amsel. Son argument, qui me semble très largement infondé et qui caricature ce qu'il dénonce, est que la critique postcoloniale est fondée sur ce qu'il appelle une logique du renversement qui, je cite, reconduit la logique qu'il voulait subvertir et prélude à l'introduction d'un modèle ethno-racial, d'un modèle identitaire multiculturel, sorte de monstre halogène dans la culture républicaine. Fin de citation. Ainsi, ajoute-t-il, et on peut se demander d'où il sort ça, mais je le cite, on construit une vie indigène à l'authenticité fantasmée. Ce primitivisme, ce déni d'historicité, fait le lit de toutes les formes d'intégrisme et de fondamentalisme. Fin de citation. Donc rien de moins. Bon, ce qui est étrange, c'est que Varin, pour justifier ça, à ce moment-là, ne cite plus aucun théoricien postcolonial, entre guillemets. Mais je crois qu'il n'y a personne à citer, tout simplement, ou presque. Et sa stratégie est très, très spéciale, parce que j'ai l'impression que, d'un certain côté, comme d'autres, il décide de lui-même qui est postcolonial et qui ne l'est pas. Et plus précisément, il décrète que tous les auteurs qu'il va juger intégristes sont des auteurs postcoloniaux, de telle manière qu'il n'est plus très difficile d'affirmer après coup que le postcolonialisme est un intégrisme. C'est une tautologie. Bon, je voulais parler aussi de l'ouvrage de Jean-François Bayard, Les études postcoloniales, un carnaval académique, qui est pour moi plus complexe et dont la critique s'avère aussi plus complexe, mais je vais passer là-dessus parce que je pense que c'est déjà un peu long, comme je vais passer également sur les travaux, de toute façon j'allais pas en dire beaucoup, mais sur les travaux académiques, sur la critique postcoloniale en France. Enfin, je vais juste citer les noms, par exemple les travaux de Nicolas Bancel, Pascal Blanchard, Elsa Dorlin, Éric Fassin ou Françoise Vergès, qui tous d'une manière ou d'une autre se rattachent à la critique postcoloniale. Et je vais oublier aussi le travail des maisons d'édition, et je voulais parler des éditions Amsterdam, parce que quasiment une grosse partie des livres dont j'ai parlé, qui ont été traduits en français, l'ont été chez Amsterdam. Mais je voudrais plutôt mettre l'accent pour clore cette présentation sur, selon moi, ce qui reste peut-être le plus intéressant en France, c'est l'émergence d'un militantisme postcolonial, ou selon leur terme décolonial, en France, décolonial en référence à la théorie décoloniale latino-américaine. Et je vais prendre qu'un exemple. Enfin, les autres sont plus complexes à la place. C'est celui du mouvement qui est né en 2005 et qui est devenu un parti en 2008, des indigènes de la République. Et on va lire l'appel de 2005, « Nous sommes les indigènes de la République », enfin une partie.
Le traitement des populations issues de la colonisation prolonge, sans s'y réduire, la politique coloniale. Non seulement le principe de l'égalité devant la loi n'est pas respecté, mais la loi elle-même n'est pas toujours égale. Double peine, application du statut personnel aux femmes d'origine maghrébine, subsaharienne, etc. La figure de l'indigène continue à hanter l'action politique, administrative et judiciaire. Elle innerve et s'imbrique à d'autres logiques d'oppression, de discrimination et d'exploitation sociale. La République de l'égalité est un mythe. L'État et la société doivent opérer un retour critique radical sur leur passé présent colonial. Il est temps que la France interroge ses lumières, que l'universalisme égalitaire affirmé pendant la Révolution française refoule ce nationalisme arc-bouté au chauvinisme de l'universel censé civiliser sauvages et sauvageons. Il est urgent de promouvoir des mesures radicales de justice et d'égalité qui mettent un terme aux discriminations racistes dans l'accès au travail, au logement, à la culture et à la citoyenneté. Il faut en finir avec les institutions qui ramènent les populations issues de la colonisation à un statut de sous-humanité. Le 8 mai 1945, la République révèle ses paradoxes. Le jour même où les Français fêtent la capitulation nazie, une répression inouïe s'abat sur les colonisés algériens du nord constantinois. Des milliers de morts. Le 8 mai prochain, 60e anniversaire de ce massacre, poursuivons le combat anticolonial par la première marche des indigènes de la République.
Ce passage, comme je disais, l'extrait de l'appel de fondateur « Nous sommes les indigènes de la République » qui a été rendu public en janvier 2005. Enfin, après, il y a eu des Voilà, c'est un texte de départ. Après, la position, il y a beaucoup de production de leur part, mais ça se complique singulièrement. Bon, l'année 2005 qui allait aussi être, quelques mois plus tard, celle des émeutes des banlieues. Alors la référence que vous avez entendue à la fin au massacre de Sétif du 8 mai 45 a aussi une fonction très stratégique chez les indigènes de la République, et au premier rang desquels, enfin les deux plus les acteurs principaux, on va dire, qui sont Ouria Boutadjida et Sadri Kiari, qui est leur volonté de déplacer la question de l'immigration et des luttes de l'immigration sur un terrain colonial et postcolonial. Il s'agit d'affirmer que le colonialisme n'est pas mort, qu'il se répète, mais désormais à l'intérieur des frontières de la métropole, d'où la préférence qu'il donne au terme d'indigène plutôt qu'à celui d'immigré. Il s'agit en outre de montrer que le colonialisme n'a pas été tant une trahison de la République que la manifestation de sa face cachée, d'où la rupture des indigènes également avec les théories intégrationnistes qui, selon eux, restent dépendantes, trop dépendante d'un modèle républicain. À l'antiracisme qu'il juge moraliste et humaniste, et qui fait du racisme avant tout une question qui reste individuelle de préjugés, les indigènes ont en substitué un antiracisme politique et ils n'hésitent pas à parler de racisme d'État. Ils et elles n'hésitent pas non plus à parler de race. Ils utilisent le mot race, mais il faut bien comprendre que la race n'est en rien ici pour eux un donné biologique, pas même un donné ethnique, ni même, encore plus vaguement, un donné culturel. La race est considérée comme une catégorie sociale, un construit politique. Et là, on pourrait en revenir à Sartre, qui affirmait il y a plus de 60 ans, dans les réflexions sur la question juive, c'est l'antisémite qui fait le juif. Sauf que pour Sartre, et pour d'autres, et notamment tous ceux qui, sous l'égide de l'UNESCO, allait participer à la lutte contre le racisme, dire c'est l'antisémite qui fait le juif, cela voulait dire il n'y a pas de race, il n'y a que du racisme. Donc la race n'existe pas. Or ce que disent les indigènes de la République, c'est précisément parce qu'il y a du racisme qu'il y a de la race. Le racisme fait bel et bien de la race comme catégorie sociale. C'est pour cela que Cédric Chiari parle de lui de race sociale, une notion que je trouve assez heureuse dans la mesure où elle est bien sûr modelée sur celle de classe sociale et par conséquent elle rompt avec toute considération biologique et même culturelle. La race est politique et n'est rien d'autre. La manière dont les indigènes parlent des blancs pour les désigner, et ça il faut bien le reconnaître, comme des ennemis peut choquer, mais je crois qu'au fond il n'y a pas de raison de plus s'en émouvoir que lorsque l'on entend les termes de bourgeois ou de prolétaire, ça n'a finalement pas un sens très différent. D'une certaine manière, les indigènes de la République s'attachent à déplacer le problème de la lutte des races, entre guillemets, une lutte très largement fantasmatique, mais qui peut être extrêmement sanglante, donc de déplacer cette lutte sur le terrain d'une lutte des classes. Alors ça, c'est mon interprétation, et c'est là qu'il pourrait y avoir des grandes divergences, parce que je crois qu'il refuserait tout de suite cette formulation, enfin ce que je viens de dire, de la lutte des classes, parce que pour eux, ça serait encore une forme de vassalisation de leur lutte, une manière, encore une fois, d'en faire une annexe des préoccupations de la gauche et de l'extrême-gauche française. Comme si, à nouveau, le combat des groupes racialisés ne pouvait être conçu que comme partie d'un ensemble plus grand et comme subordonné au mouvement blanc, entre guillemets. C'est déjà ce que critiquait Césaire Elfano. Or, Boutelja et Chiari ont ainsi écrit récemment, je cite, « Si vous voulez vous battre, nous dit-on, faites-le dans le cadre de la grande maison de la gauche. Nous n'oserons pas ajouter qu'à gauche, on nous a toujours réservé la chambre de bonne. » Fin de citation. Pour les indigènes, c'est pour les indigènes, la gauche n'a pas été plus à même que la droite de reconnaître et combattre la nature coloniale de la République. Elle n'est jamais parvenue à dépasser, finalement, une position paternaliste qui fait des subalternes des victimes. Elle n'a jamais su ou voulu reconnaître l'indigène, selon leurs termes, comme sujet politique à part entière. En témoigne, selon eux, l'énorme succès du slogan de SOS Racisme, que tout le monde connaît, « Touche pas à mon pote ». Ce slogan, ils disent, « met en scène un blanc pas raciste qui parle à un blanc raciste et qui lui dit « Tu ne touches pas à mon pote l'arabe ou à mon pote le noir ». Dans cette discussion, l'indigène est celui qui n'est pas acteur de sa vie. Fin de citation. Il est celui qu'on peut protéger, il n'est pas celui qui peut agir, ou alors seulement agir aux côtés de celui qui le protège. C'est pour ces raisons que les indigènes se sont refusés à tout. Alors, tous ces extraits, il y a un livre qui va paraître à nouveau chez Amsterdam, qui est une compilation des textes, fin octobre, début novembre, qui s'appelle « Nous sommes les indigènes de la République ». Qui regroupe tous ces textes, et c'est pour cette raison que les indigènes se sont refusés à toute alliance politique et ont bâti une stratégie fondée sur l'autonomie du mouvement indigène, et l'autonomie est une question centrale, une stratégie qui a profondément divisé et a entraîné la défection d'un certain nombre d'alliés et qui n'arrête pas et a suscité et continue à susciter des virulentes critiques à gauche, en particulier des accusations de séparatisme. Bon, il y aurait bien sûr beaucoup plus à dire à propos de... notamment sur des thèmes sensibles chez les indigènes de la République, tels que la critique du sionisme ou l'islam politique. Mais je vais m'arrêter là, en avouant que les trop étroites limites de ma connaissance du mouvement, que j'ai découvert finalement il y a peu, et c'est aussi un signe qu'en ayant travaillé sur le postcolonial, qui a fameux pendant des années, j'ai jamais été amené dans mes lectures, ou très indirectement, à lire ce que produisaient les indigènes de la République, parce qu'il y a vraiment une scission entre une frange universitaire de la critique antiraciste postcoloniale et les indigènes de la République, une forme d'isolement. Mais pour juste conclure cette présentation en quelques mots, je ne vais pas essayer de proposer une définition synthétique de la critique postcoloniale, je voudrais juste souligner un de ses aspects, celui qui me semble le plus important, et qui, je l'espère, sera quand même ressorti de la présentation, c'est que la critique postcoloniale est indissociable de l'émergence d'une nouvelle géographie de la critique, ou pour reprendre une notion que j'ai déjà utilisée, d'une géopolitique de la connaissance. L'une des conditions, vraiment des conditions de possibilité de la critique postcoloniale, est qu'elle soit produite depuis une multiplicité de lieux hétérogènes, et l'Europe en fait partie. Ce qui revient à dire que revendiquer une pensée postcoloniale, ce n'est en rien vouloir substituer le sud au nord, ou édifier pour édifier de nouveaux centres, c'est bien plutôt œuvrer un décentrement permanent, promouvoir ce qu'on peut appeler une polyfocalité critique et épistémique. C'est en d'autres termes reconnaître qu'il existe des perspectives de discours qui sont hétérogènes, que les lieux d'énonciation ne se valent pas, des perspectives qui sont hétérogènes mais qui peuvent être aussi conflictuelles, mais ce conflit n'exclut en rien, au contraire, leur possibilité de traduction mutuelle. C'est juste qu'il faut laisser la possibilité au conflit, il ne faut pas se situer en dehors de tout conflit. Bref, la critique postcoloniale a précisément cette vertu de relier, de connecter ces lieux, ne serait-ce qu'en un sens géographique qui est très concret, dans la mesure où les théoriciens postcoloniaux sont aussi très souvent ce que James Clifford appelle les théoriciens voyageurs. Et on songe ici à Siler James, dont j'ai parlé, de Trinidad en Angleterre aux États-Unis, ou encore à Fanon, de la Martinique à Lyon, à l'Algérie, à la Tunisie, à l'Afrique subsaharienne, avant de mourir aux États-Unis. Donc peu importe, ces déplacements physiques sont indissociablement ce que j'ai appelé des déplacements géoépistémiques. Ils sont source de variations, de transformations, et encore une fois de traduction, où l'anglais ici est mieux. Enfin, va mieux de translation, il y a le double sens du mouvement et de la traduction, de translation des savoirs, qui produisent justement ce qu'Edward Said a appelé par ailleurs des théories voyageuses. C'est pourquoi, je vais terminer sur cette formule, on pourrait dire que le postcolonialisme est un internationalisme. Et je vous remercie pour votre attention.
Merci à toi pour ce texte particulièrement éclairant, une pensée dense, un texte dense que ce livre est dense. Avant de lancer le débat, je vais faire justement une petite pause pour vous proposer, pour ceux que ça intéresse, ce livre qui vaut 14€, comme on a des relations, on vous le fait à 10. Donc, ceux qui le veulent, prenez-le maintenant, ça va nous permettre de respirer 3 minutes, après quoi on lancera le débat, et celles et ceux qui voudront poursuivre lors du repas le feront bien volontiers. Donc je vais circuler ce paquet.
Allez, je comprends, j'achète plus de livres.
Très bien, tu feras dédicacer. Bonne nouvelle, celles et ceux qui laisseront leur mail auront le texte. Allez-y.
On le laisse où, le mail?
Bah, toi, je l'ai, ton mail.
Fais tourner la feuille, Jean-Pierre.
Une feuille qui circule pour les, ce que j'appelle les clandestins qui ne s'étaient pas fait connaître précédemment.
Des indigènes, peut-être.
Peut-être des indigènes. Éventuellement. Il faut encore 2 minutes pour faire circuler le bouquin et on entre au débat. Il y a un peu d'air frais, c'est très bien.
Oui.
Ah oui, ça oui. Il y a des rondins de pizza, des...
Je veux bien que tu passes ça là, jusqu'à Thierry en fait.
Tu l'as pris, les jolies là.
Non, mais je te demanderais bien de dire quelque chose. Oui, mais c'est en noir avec une croix.
C'est quelle page je te
permets ?
Les Russes de la raison populiste ?
Ouais.
Les Russes ?
Oui, pas les Russes. Les Russes. Hein.
Bon, on y va ? Tu veux qu'ils lisent quelque chose ?
Non, enfin moi j'ai un certain nombre de questions et il y en a une où j'aimerais bien que Mathieu réagisse à quelque chose qui est dans le bouquin que je viens de passer à Thierry. Donc, mais enfin.
Bon vas-y. Alors je vous demande, bien sûr, ça vous paraît un peu impossible d'avoir des questions courtes parce que
on ne peut
pas commencer à manger à 23 heures. Donc des questions courtes et des réponses courtes avec le droit, bien sûr, un droit de relance au cas. Donc, on va bien. Vas-y,
ouais.
Fabien, ouvre
le feu. Bon, bah, d'abord, je voulais remercier Mathieu parce que.
Parle fort.
J'ai trouvé ton intervention vraiment très intéressante. Et là, pour le coup, là, la première séance, on s'interrogeait sur les pensées critiques, effectivement, non occidentales. Là, pour le coup, tu as fait un panorama de choses que moi, pour la plupart, je ne connaissais pas. Donc là, pour le coup, tu nous as fait découvrir des continents critiques qu'on ignorait. Et c'est évidemment tout à fait intéressant. Moi, j'avais envie de te faire réagir par rapport à deux choses, deux bouquins récents qui sont sortis. Peut-être une première réaction qui fera le lien avec ta dernière partie sur les indigènes de la République, et puis peut-être avec le passage que tu avais, que tu nous as formulé, là, l'idée de l'impossibilité de retour à soi sans passer par l'autre, et donc sans passer par l'Occident, finalement. Alors, le premier bouquin... sur lequel, enfin, le premier passage d'un bouquin récent sur lequel j'aimerais bien que tu réagisses, c'est le bouquin qu'a sorti Corcuff il y a quelques semaines, dont le titre m'échappe là à l'instant, mais peu importe. Et dans ce bouquin-là, qui est par ailleurs très très intéressant, je trouve, Corcuff identifie un certain nombre de contradictions du capitalisme, après d'autres, hein, c'est pas le seul à avoir fait ça, mais il dit qu'en gros, il y a 4 contradictions principales, lui on identifie 4, il dit évidemment la contradiction capital-travail, capital nature, capital démocratie, capital individualité, donc ça ce serait finalement les 4 contradictions premières, et puis il dit en plus de ça il y a 2 oppressions autonomes, et les 2 oppressions autonomes qui sont en interaction évidemment avec le capitalisme, c'est la question féministe et la question postcoloniale. Il se trouve que c'est ces deux sujets là qu'on a choisi jusqu'à la fin de l'année de traiter dans le cadre des cafés sociaux. Alors qui serait en quelque sorte, si on reprenait un vocabulaire un peu usé, des contradictions finalement secondaires. Alors, bah, tu nous as montré que finalement la critique postcoloniale était variée, diverse, multiple, complexe. Donc la question que j'ai à te poser est un peu compliquée si je te pose la question comme ça. Qu'est-ce que la critique postcoloniale, ou comment la critique postcoloniale articule ces différentes contradictions précisément via l'entrée postcoloniale, comment tout ça fonctionne. Tu vas me répondre sans doute que ça dépend des auteurs, ça dépend des... Alors, une façon de reformuler l'affaire qui est sans doute pas moins compliquée, peut-être comment toi
tu fais travail, la... nature.
Alors lui dit travail, nature, démocratie, individualité. Comment toi tu fais l'articulation peut-être de ces contradictions-là avec cette forme d'oppression soi-disant secondaire, particulière, qui est le postcolonialisme. Et la deuxième...
C'est la question courte.
Ça, c'est la question courte. La deuxième réaction que j'aimerais bien que tu aies, c'est vis-à-vis d'un, donc d'un petit bouquin qui vient de sortir, un petit bouquin de Franck Poupaud. Alors Franck Poupaud, c'est un, on va dire, c'est un sociologue bourdieusien radical, c'est un peu un sociologue à K47, quoi, ça tire dans tous les sens. Donc là, c'est un petit bouquin très, très bien aussi qui vient de sortir chez Raison d'agir, qui s'appelle « Les mésaventures de la critique ». Où il fait une critique au vitriol d'un certain nombre de choses, de théorie critique, mais aussi de, je dirais, de la praxis mise en œuvre d'un certain nombre de la gauche radicale, etc. Et il y a tout un passage sur le postcolonialisme. Et j'aimerais bien éventuellement que Thierry en lise un morceau et que tu réagisses dessus si tu veux bien après. Tout ce qui est en noir avec une croix. Ouais, et puis voilà, il doit y en avoir un petit bout derrière. Non, non, il n'y a pas deux pages, il y a bien moins que ça. Mais... Vous allez voir, ça s'enchaîne bien.
Les ruses de la raison populiste, le postcolonialisme au pouvoir. Le populisme désigne, on l'a vu, une logique politique où le peuple se constitue comme agent historique de conflit pour l'amélioration de ses conditions de vie et la reconnaissance de son existence ou de sa souveraineté. Sous sa forme post-coloniale et dérivée des subaltern studies, il renvoie à une écriture de l'histoire par les dominés et plus seulement par les institutions nationales officielles qui tendent à en occulter l'existence. Ce n'est donc pas le moindre des paradoxes que de voir les tenants actuels du post-colonialisme retrouver des thématiques que l'on pourrait croire réservées à la pensée conservatrice. Pour reprendre l'exemple de la Bolivie, gouvernée par Evo Morales depuis 2006, on assiste ainsi à un étrange renversement idéologique. Ce processus politique, qui se présente comme révolutionnaire, a pour objectif de renverser plus de 500 ans de domination coloniale, de rétablir les droits des peuples dits originaires dans un État plurinational et de mettre fin aux inégalités générées par le système capitaliste et la dépendance qu'il a créée dans les pays de la périphérie. Pourtant, il véhicule aussi des revendications qui n'ont, a priori, pas grand-chose à voir avec un quelconque idéal d'émancipation sociale, comme par exemple l'interdiction de l'avortement, la négation de l'homosexualité, l'exaltation d'une image essentialiste, sinon coloniale, du bon indien, comme forme moderne du bon sauvage, proche de la terre-mère, la Pachamama, et de la vie communautaire, ou encore le maintien de formes d'exploitation familiale plus proche du capitalisme aventurier décrit par Max Weber que de la reconnaissance d'un droit du travail ou de l'enfance au sein de petites entreprises qui constituent l'immense majorité de la vie économique du pays.
La parole est à la défense.
Dommage, il y a une deuxième partie qui est intéressante.
La parole est à la défense. Bah, je vais commencer par le texte. Je crois que ça va être pas très bien articulé, mais il y a une façon de, je ne connais pas l'auteur, mais sans connaître absolument le reste, de lier la revendication subalterne, on va dire, au populisme qui paraît un peu douteuse. Pourquoi le. Bon, je vais expliquer ça après, mais pourquoi la revendication subalterne serait du populisme, comme si une revendication venant des subalternes serait forcément une revendication d'un peuple considéré comme unifié globalement. Peu importe, ce que j'ai noté au départ, c'est la critique des subaltern studies, parce que les subaltern studies, dans leur critique de l'historiographie nationaliste, ne prétendent pas simplement donner. Pas seulement ils prétendent donner voix au peuple, aux masses paysannes, et finalement ils ne se poseraient pas la question de leur propre activité théorique, leur propre activité critique, Au contraire, c'est bien l'exemple du livre de Gayatri Chakravorty-Spivak en exemple, c'est vraiment la question de la représentation qui est au centre de l'interrogation des subalternes. Et c'est vraiment comment eux-mêmes, en tant qu'intellectuels, peuvent prétendre représenter l'autre et les masses paysannes. Mais en aucun cas, et c'est ce que j'ai cru comprendre dans le texte, dans le modèle d'une expression directe. C'est bien une expression directe des peuples. Les masses, c'est vraiment la question de la représentation. Qu'est-ce que c'est de parler au nom du subalterne et comment on peut prétendre le faire, qui est au centre. Quant à Morales, je pense que après on peut faire ce qu'on veut, mais il y a aussi une façon, là encore, à mon avis, de penser que le postcolonial ne peut pas être... Dans le postcolonial se font immédiatement le théorique et le politique, le critique et le politique, comme s'il n'y avait aucune distinction. Bien sûr, il y a des liens et des liens qui sont forts, mais là, il y a une façon de mettre les subalternes se disent sur le même plan qu'Evo Morales, qu'on ne se permettrait bien sûr pas de mettre un théoricien du... À l'époque, pour n'importe quel exemple, un théoricien du libéralisme, John Locke, et dire que c'est la même chose que Jefferson. Il y a des choses, même s'il y a des influences extrêmement fortes, des choses. Là, il y a une manière d'identifier, selon moi, qui ne fonctionne pas, une autre manière de penser ou de dire a priori que les formes d'indigénisme sont des formes de postcolonialisme. Alors, je ne crois pas, selon moi, que tout indigénisme soit un postcolonialisme, ce qui pourrait nous ramener à la question du retour à soi et du détour par l'autre, et du détour par l'Europe pour penser le retour à soi, qui est aussi quelque chose qui est aussi propre à l'Inde dans la manière dans la formation des élites, vient aussi de la formation des élites. Mais il faudrait que je relise le texte, et juste sur les questions en contradiction du capitalisme, capital travail, capital nature, capital démocratie, capital individualité. Donc, encore une fois, s'il fallait parler d'un point de vue postcolonial, placer l'oppression coloniale comme une oppression autonome, ça ne marche pas vraiment. Ça serait la même chose, je pense, dans les Denver Studies, ça ne marche pas vraiment. Car il faut toujours penser que le postcolonial, c'est pas seulement un objet, c'est bien sûr aussi un objet, c'est l'oppression, théorisation de l'oppression coloniale et postcoloniale, mais c'est toujours aussi la volonté d'adopter une nouvelle perspective. Donc c'est un nouveau regard sur d'autres choses. Donc ça serait plutôt comment, d'un point de vue postcolonial, on peut reconsidérer toutes ces contradictions qui ont été notées sur... Après, je vais pas savoir capital, mais plutôt dire des gens, plutôt que je connais assez mal leur position, mais on pourrait dire que sur capital travail, il y a sûrement des choses très intéressantes à voir à la fois du côté des subalternes studies, notamment Chakrabarty, encore une fois, et aussi parce que tous les théoriciens des subalternes studies ont une formation, une grande majorité ont une formation marxiste à la base. Capital nature, c'est amusant que Chakrabarty qui a écrit « Provincialiser l'Europe » se sont ensuite dirigés vers des choses qui, pour beaucoup, paraissent moins convaincantes, mais peu importe, des choses sur l'écologie et le climat, ce qu'il appelle le climat de l'histoire. Donc on voit bien les formes de passage. Capital démocratie, ça pourrait être ça pourrait être au centre, on pourrait dire, de toute la critique postcoloniale de développer, mais...
Est-ce que ces contradictions-là sont articulées dans certaines théories postcoloniales ou pas?
Peut-être.
Chez les plus marxistes.
Peut-être justement chez des gens comme Kirano, avec l'idée de colonialité du pouvoir, il y a peut-être des moyens de retrouver ça. Parce que ça, je disais, ça essaye de penser la colonialité comme condition globale de modernité, donc. Il y a peut-être de ça. Ensuite, comme ça, je vois pas.
D'autres questions? Qui prend la suite? Dans ce cas-là, est-ce que tu pourrais dire un mot à propos de ce que j'ai trouvé, moi, enfin, ce qui m'intéresse pas directement le plus, ta dernière partie sur la question de la résistance. Bon, tu as dit que la résistance de l'intelligence française, de l'université française, de l'édition française, ou Superior Studies et au Post-Colonial Studies, venait pour partie et largement de l'histoire coloniale française. Alors, est-ce que du fait que Fanon se soit singulièrement investi dans la décolonisation algérienne, est-ce que tu pourrais en dire un peu plus sur la matérialité de cette résistance en France par rapport à ça et par rapport justement à notre histoire coloniale ?
C'est vrai que je l'ai dit vite, parce que ce lien,
je t'approche rien,
ce lien des résistances agricoles postcoloniales avec la relation de la France au passé colonial est assez complexe, me paraît pas toujours si évident qu'il y ait des répressions, de déni du passé colonial. C'est un peu plus compliqué que ça, j'aimerais que ça demanderait un travail à part entière. Je pense par exemple, même s'il reste bien sûr énormément de choses à faire, le travail sur, en tout cas dans le point de vue de l'histoire, il commence à être assez conséquent, mais avec des préférences, c'est-à-dire l'histoire de l'Algérie, bien sûr, beaucoup plus travaillée que des lieux comme le Vietnam ou l'Indochine, et que, sans parler de Madagascar, donc, vous avez une sorte de sélectivité, bien sûr, l'Algérie a un statut spécial, et une forme d'oubli partiel, sur l'implication de Fanon, sur Louis Fanon, je pense que c'est encore plus net dans ce que j'avais vu en Martinique, où il y avait eu un rejet de Fanon jusqu'au début des années 80, extrêmement fort, à cause de son engagement.
Si je peux préciser, il y a en France, incontestablement, un courant anti-colonial. Donc tu as bien montré la différence entre l'anticolonialisme et le postcolonialisme. Est-ce que tu as une idée de la raison pour laquelle les anticoloniaux français ne passent pas au post-colonialisme, en tout cas majoritaire.
Qui sont les anticoloniaux, juste pour avoir un peu...
Enfin, disons, genre, on peut dire que...
Parce que c'est des petits blancs.
Non, c'est trop facile.
Non, c'est une blague,
Il y a dans la gauche, l'extrême gauche française, et même dans la droite, puisque tout le monde sait que le colonialisme a été porté au départ par la gauche contre l'avis du patronat de droite, hein, c'est... On va pas vous refaire le coup de Clémenceau et Jules Ferry, mais il y a en France une tradition anticoloniale. Il y a eu un soutien, surtout à l'extrême gauche, mais aussi dans d'autres familles politiques, y compris des familles religieuses. Il y a un soutien à la lutte de décolonisation, et toujours aujourd'hui, un courant antiraciste fort qui s'inscrit là-dedans, etc., etc. Donc, singulièrement, c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus présent, beaucoup plus respecté que le post-colonialisme que vous avez expliqué qu'il était
difficile. Bien sûr, le post-colonialisme est aussi, dans ma définition, un anticolonialisme. Mais je pense que l'exemple de Domenac était assez... C'est pas de 62, mais Domenac, c'était aussi un penseur anticolonial à certains points de vue, qui a soutenu les décolonisations. Il y a un autre exemple qui est celui de... On ne pas retrouver aussi d'Emmanuel Mounier, qui écrit un livre, L'Éveil de l'Afrique noire, dans les années 50. C'est considéré à l'époque comme un texte anticolonialiste pur, or que finalement, c'est une position extrêmement paternaliste dans le texte. Bon, bien sûr, on n'en est plus au niveau de Mounier qui parlait de comment l'Européen devait mettre fin au colonialisme comme, je ne sais plus l'image, mais c'est comme un enfant, comme un père qui aurait raté l'éducation de ses premiers enfants, c'est-à-dire la père des premières colonies, qui doit se bien élever le dernier. Ça, c'était considéré. Bon, finalement, il y a des restes de... Mais ça, et je pense que le plus important, c'est pour ça que j'appelais ça non plus une résistance épistémique, comme j'appelais ça avant une forme de racisme épistémique, c'est qui témoignerait d'une certaine difficulté à accepter des positions qui ne sont pas des positions, à reléguer des positions autres qui prétendent s'exprimer depuis un autre point de vue, comme des positions particularistes. Bien sûr, le combat peut rester le même, mais la capacité à accepter l'autre en tant qu'il est aussi un sujet de pensée et un sujet de théorique, si on veut, capable d'opposer une pensée qui ne sera pas, encore une fois, c'est pas du clivage culturel, ça peut être juste une activité de traduction ou de reformulation pour adaptation à des contextes qui sont autres et qui sont... Voilà. Et ça, il y a une difficulté avec ça, et Amsel et d'autres en sont la première... sont la preuve, parce qu'Amsel a fait des choses très bien auparavant, mais qui a une forme de blocage.
Mustapha, essaye de parler fort, parce qu'il paraît que...
Oui, je vais essayer de parler fort. J'avais deux questions. La première, je pourrais la formuler de la manière suivante, à savoir, quel est aujourd'hui l'horizon du post-colonialisme, pardon, de la globalisation des populations du Sud, partie de ces populations veulent absolument rejoindre l'Europe, quelle est d'une certaine manière la place de l'immigration dans la réflexion post-coloniale. Quand je dis quel est l'horizon du post-colonialisme, est-ce que c'est sortir de la pensée occidentale, en particulier européenne, faire reconnaître l'altérité, l'égalité, la reconnaissance de la subjectivité. Pour continuer ma question, surtout à propos de la sortie de la pensée occidentale, je voudrais revenir sur ce que tu as dit au début à propos de la décolonisation des savoirs. Ma question, c'est quelles seraient les conditions de possibilité de cette décolonisation des savoirs si on prend au sérieux l'hypothèse de Sapir et Whorf sur les rapports entre langue et culture. Sachant que la langue, finalement, c'est quelque chose qui façonne la culture, qui façonne les savoirs. Donc, est-ce que ces questions sont traitées par les post-coloniaux ?
Bon, sur l'horizon du postcolonialisme, je l'ai dit, pas, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a des formes d'épuisement au niveau critique. On voit bien dans les textes que je cite, ça s'arrête à 2004, donc c'est pas vieux. On va dire par rapport à la productivité des années 90 et début, surtout autour des années 2000, c'est quand même sur moi beaucoup plus faible. Alors, c'est absolument pas contradictoire avec l'idée d'un monde globalisé et tout, c'est juste la pensée qu'un monde globalisé aussi, c'est l'idée qu'un monde globalisé est aussi un monde différencié, que la globalisation aussi. On ne supprime pas la singularité des lieux. Et ce qu'il faut penser, justement, dans la culture postcoloniale, c'est les phénomènes de circulation pour en revenir à l'immigration, mais la circulation des personnes, mais comme j'ai essayé de dire ça plusieurs fois, la circulation des idées, leur transformation. Donc, c'est aussi penser, finalement, la pensée postcoloniale participe complètement de ce mouvement sur la crise. Pour langue et culture, bon, je ne sais pas si je suis un adepte de l'hypothèse de Sapir-Whorf, mais au moins en partie. En fait,
sur le... Il y a Anne Sisson qui vient de sortir un livre aussi exactement sur le même thème.
En partie, c'est une
question qui reste ouverte.
Ouais. C'est vrai que la question de. En tout cas, si la question de la langue est au cœur de la critique postcoloniale, a toujours été, et ça, c'est rien que sous la forme de la nécessité de la traduction. Et cette idée de traduction qui finalement devient une traduction d'à peu près tout, traduction des idées, traduction des théories, elle vient aussi d'un modèle bien sûr linguistique, c'est vraiment il y a une base, et je sais que par exemple mon cher Chakrabarti dans Provincialiser l'Europe, il prend ce modèle de la traduction pour dire mais qu'il devient, la traduction devient un modèle du postcolonial en général à mesure où traduit, on dit il faut une traduction qui ne suppose plus de troisième terme, ça veut dire qu'on ne suppose plus de un langage supérieur au-dessus qui réglerait les différends entre les langues. Et il propose une conception de la traduction comme trope, mais je ne sais plus, je ne suis pas spécialement adepte de ça, mais en tout cas une traduction qui soit bien plus horizontale. Et quand je reviens à Merleau-Ponty, c'est vraiment cette idée que les formes d'universalité se construisent horizontalement à travers ces activités de traduction qui peuvent être. Et là, j'ai pris surtout cet exemple parce que c'est vrai que c'est là-dessus que se fonde la critique postcoloniale, qui sont des traductions entre guillemets nord-sud, mais bon, il y a tout un mouvement maintenant, et ça serait plutôt du côté de la théorie décoloniale latino-américaine, qui soit du sud-sud d'une certaine manière, un mouvement sud-sud des savoirs.
Peut-être juste. pour continuer, prolonger la question de Mustapha. Cette traduction, dans quel espace linguistique elle pourrait s'opérer au XXIe siècle, sachant que les linguistes prédisent que de 5000 langues parlées aujourd'hui, il y en aura 500 parlées à la fin du XXIe siècle. C'est Claude Agec qui fait cette prédiction. Et sachant que tous les écosystèmes du monde seront à peu près pliés, seront à peu près transformés sur le modèle des écosystèmes urbains qui sont nés dans l'Europe occidentale. Donc, moi, ma question, c'est comment est-ce que les études postcoloniales prennent en compte cette irréversibilité du processus de disparition des langues et de disparition des relations aux écosystèmes locaux et proposent des solutions de maintien d'une sociodiversité nécessaire puisse se faire malgré ces conditions-là.
Alors, je pense qu'il n'y a pas de position. Il n'y a pas de position qui soit réellement partagée par